Troisième partie, chapitre 1er. Au printemps de l'année 1861, Agnès s'était installée dans la maison de campagne de ses deux amis, devenue par suite de la mort du premier lord, décédé sans enfant, Lord Lady Mountbury. La vieille nourrice n'avait pas quitté sa maîtresse. On lui avait trouvé une place convenable à son âge. Elle était parfaitement heureuse dans ses nouvelles fonctions. La preuve, c'est qu'elle avait prodigué le premier semestre de ses revenus de la Venice Hotel Company en cadeaux extravagants pour les enfants. Dans les premiers mois de l'année, les directeurs des bureaux d'assurance sur la vie se soumirent aux circonstances et payèrent les 10 000 livres sterling. Immédiatement après, la veuve du premier lord Mountbury, autrement dit la douairière Mountbury, quitta l'Angleterre avec le baron Rivard pour se rendre aux États-Unis. Les journaux scientifiques avaient annoncé que le baron partait pour se rendre compte des progrès que la chimie avait faits dans la grande république américaine. Sa sœur répondit à ceux de ses amis qui lui demandaient s'il l'accompagnait, qu'elle le suivait dans l'espoir de trouver dans ce voyage une distraction au malheur qui l'avait frappé. Agnès apprit cette nouvelle par Henry Westwick, qui était venu faire une visite à son frère. Elle en éprouva pour ainsi dire une sorte de soulagement. « Avec l'Atlantique entre nous, se dit-elle, j'en ai sûrement fini avec cette terrible femme. » Une semaine s'était à peine écoulée, qu'un événement inattendu vint rappeler une fois de plus cette terrible femme au souvenir d'Agnès. Ce jour-là, Henry était parti pour Londres. Le matin de son départ, il avait tenté de presser encore Agnès, et les enfants, comme il l'avait craint, avaient été d'innocents obstacles à l'exécution de son projet, mais il s'était fait secrètement une fidèle alliée de sa belle-sœur. « Ayez un peu de patience, » lui avait-elle dit, « et laissez-moi me servir de l'influence des enfants. S'ils peuvent la persuader de vous écouter, ils le feront. » Les deux dames avaient accompagné à la gare du chemin de fer Henry et d'autres invités qui s'en allaient en même temps. Elles venaient de rentrer à la maison en voiture quand le domestique annonça qu'une personne du nom de Roland attendait pour voir Milady. « Est-ce une femme ?»« Oui, madame. » La jeune Lady Mountbury se tourna vers Agnès. « C'est la personne que votre notaire aurait voulu voir quand il a cherché à découvrir les traces du courrier. » « Vous voulez dire la femme de chambre anglaise qui était avec Lady Mountbury à Venise ?»« Je vous en supplie, ma chère amie, ne me parlez jamais de l'horrible veuve de Mountbury en la désignant par le nom que je porte maintenant. » Stephen et moi, nous avons résolu de lui donner désormais le titre qu'elle portait avant d'être mariée. Je suis Lady Mountbury, elle est la comtesse. De cette façon, il n'y aura pas de confusion possible. Madame Roland était à mon service avant d'entrer chez la comtesse. C'était une véritable femme de confiance, mais elle avait un défaut qui me força à la renvoyer, un caractère insupportable dont on se plaignait continuellement à l'office. Voulez-vous la voir ? Agnès accepta, espérant en tirer quelques renseignements pour la femme du courrier. L'inutilité de tous les efforts faits pour découvrir les traces de l'homme disparu avait complètement découragé Madame Ferraris, qui s'était résignée peu à peu. Elle avait pris des vêtements de deuil et gagné sa vie dans une place que l'inépuisable bonté d'Agnès lui avait procurée à Londres. La dernière chance qu'on eut de pénétrer le mystère de la disparition de Ferraris reposait maintenant tout entière sur ce que la femme qui avait servi en même temps que le courrier allait dire. Pleine d'espérance, Agnès suivit Lady Mountbury dans la pièce où attendait Madame Roland. C'était une grande femme osseuse, arrivée à l'automne de la vie, avec des yeux enfoncés, des yeux gris fer. Elle se leva de sa chaise avec une raideur d'automate et salua les deux dames avec un air de soumission absolue dès qu'elles parurent. On voyait du premier coup d'œil que Madame Roland devait avoir sa réputation intacte. Elle avait d'épais et larges sourcils, une voix profonde et pleine de solennité, des gestes raides et secs, et dans sa figure, pas la moindre ligne courbe caractéristique de son sexe. Tout était anguleux. En un mot, la vertu, dans cette excellente personne, se montrait sous son aspect le moins engageant. Et quand on la voyait pour la première fois, on se demandait pourquoi elle n'était pas un homme. « Cela va-t-il bien, Madame Roland ?»«
Pour mon âge, aussi bien que possible. Puis-je quelque chose pour vous ?»« Madame peut me faire une grande faveur en disant comment je l'ai servie tant que j'étais chez elle. On m'offre une place auprès d'une dame malade qui, depuis ces derniers jours, est venue demeurer dans le voisinage. » « Ah oui, j'en ai entendu parler. Une Madame Carberry, avec sa nièce, une jolie jeune fille, à ce que l'on m'a dit. Mais, Madame Roland, vous m'avez quitté il y a quelque temps déjà, et Madame Carberry voudra sans doute avoir ses renseignements de la dernière maîtresse que vous avez servie. » Un éclair de verdueuse indignation illumina soudain les yeux enfoncés de Madame Roland.
Elle toussa avant de répondre, comme si le souvenir de sa dernière maîtresse l'étreignait à la gorge. J'ai dit à Madame Carberry que la personne que j'ai servie en dernier, réellement je ne puis pas lui donner son titre en votre présence, madame, a quitté l'Angleterre pour l'Amérique. Madame Carberry sait que je suis parti de chez cette personne de mon plein gré. Elle sait aussi pour quelle raison, et elle approuve ma conduite. Un mot de vous, madame, sera largement suffisant pour me procurer cette place.
Très bien, madame Roland, je n'ai aucune raison pour ne pas vous recommander en cette circonstance.
Madame Carberry me trouvera demain chez moi jusqu'à 2 heures. Madame Carberry n'est pas assez bien portante pour sortir, madame. Sa nièce, Miss Haldane, viendra à sa place, si vous le permettez.
Mais parfaitement. Cette jeune fille est sûre d'être la bienvenue.
Attendez un peu, madame Roland. Cette dame est Miss Lockwood, la cousine de mon mari et mon amie. Elle désire vous parler du courrier qui était au service de feu Lord Mountbury à Venise.
Les sourcils épais de madame Roland se froncèrent en signe de mécontentement.
Je le regrette, madame, fut tout ce qu'elle répondit.
Vous ne savez peut-être pas ce qui s'est passé après votre départ de Venise, reprit Agnès.
Ferraris a quitté le palais secrètement, et l'on n'a plus jamais entendu parler de lui.
Madame Roland ferma mystérieusement les yeux comme pour chasser une vision terrible pour une femme respectable, celle du courrier perdu.
Rien de ce que M. Ferraris a pu faire ne me surprendra, répondit-elle avec un ton de basse profonde.
« Vous êtes sévère pour lui, » dit Agnès.
Madame Roland ouvrit soudain les yeux.
« Je ne parle sévèrement de personne sans raison.
Monsieur Ferraris s'est conduit envers moi, Miss Lockwood, comme aucun homme ne l'a jamais fait, ni avant ni depuis. »«
Qu'est-ce qu'il a donc fait ?»«
Ce qu'il a fait ?»
reprit Madame Roland avec un geste d'horreur. « Il s'est permis des libertés avec moi. »
La jeune Lady Mountbury se détourna et mit son mouchoir sur sa bouche pour étouffer un éclat de rire.
Madame Roland continua, paraissant fort étrangement surprise de l'effet que sa réponse avait produit sur Agnès.
Et quand j'ai insisté pour des excuses, il a eu l'audace, mademoiselle, de me répondre que la vie qu'il menait au palais était horriblement triste et qu'il n'avait pas trouvé d'autre moyen de s'amuser.
Vous ne m'avez probablement pas bien comprise, dit Agnès. Ferraris ne m'intéresse pas du tout, mais savez-vous qu'il est marié?
Je plains sa femme, reprit madame Roland.
Naturellement, elle est inquiète de lui, continua Agnès.
Elle devra remercier Dieu d'en être débarrassée, interrompit madame Roland.
Agnès continua.
Je connais madame Ferraris depuis son enfance, et je désire sincèrement lui être utile dans cette circonstance. Avez-vous remarqué quelque chose pendant que vous étiez à Venise qui explique la disparition si extraordinaire de son mari? Dans quels termes, par exemple, vivait-il avec son maître et sa maîtresse?
En termes excellents avec sa maîtresse, répondit madame Roland, si excellents qu'ils en étaient tout bonnement répugnants. Pour une respectable servante anglaise. Elle le poussait à lui raconter toutes ses affaires, comment il vivait avec sa femme, s'il avait besoin d'argent et autre chose semblable, tout comme s'ils étaient égaux, c'était répugnant, cela n'a pas d'autre nom.
Et son maître, reprit Agnès, en quels termes était Ferraris avec Lord Mountbury?
Milord vivait constamment enfermé avec ses études et ses peines, répondit madame Roland avec une expression de respect solennel pour la mémoire du Lord.
M. Ferraris recevait son argent quand il en avait à toucher et ne se souciait pas d'autre chose. Si mes moyens me le permettaient, je m'en irais aussi. Mais mes moyens ne me le permettent pas. Ce furent les dernières paroles qu'il me dit le matin de mon départ. Je ne lui répondis même pas. Après ce qui s'était passé entre nous, je n'étais naturellement pas en fort bon terme avec lui.
Vous ne pouvez donc rien me dire d'intéressant sur cette affaire ?
Rien. Répondit madame Roland, semblant heureuse de voir Agnès désappointée.
Mais il y avait encore une autre personne dans le palais, reprit Miss Lockwood, résolue de tirer l'énigme au clair, tandis qu'elle en avait l'occasion.
Il y avait le baron Rivard.
Madame Roland leva au ciel ses grandes mains, recouvertes de gants noirs fanés, en signe d'horreur.
Savez-vous bien, mademoiselle, reprit-elle, que j'ai quitté ma place à cause de ce que j'ai vu?
Agnès l'arrêta.
Je veux seulement savoir si le baron Rivard a fait quelque chose qui puisse expliquer l'étrange conduite de Ferraris.
Il n'a rien fait que je sache, reprit madame Roland.
Le baron et M. Ferraris se valaient, s'il m'est permis de le dire. En un mot, ils étaient sans scrupules l'un et l'autre. Je suis une femme éminemment juste, et je vais vous en donner la preuve. Le jour même où j'ai quitté le palais, j'ai entendu, en traversant un corridor, le baron dire de sa chambre, dont la porte était entr'ouverte, à Ferraris. J'ai besoin de 1000 livres sterling. « Que feriez-vous pour 1000 livres, vous ?»
Et Ferraris répondit. N'importe quoi, monsieur, du moment où on ne le saurait pas.
Ce fut tout. Le baron et le domestique partirent ensuite d'un éclat de rire.
Jugez par vous-même, mademoiselle.
Agnès réfléchit un instant.
1000 livres, c'était justement la somme qu'on avait envoyée à Madame Ferraris dans la lettre anonyme.
Ces 1000 livres avaient-elles un rapport quelconque avec la conversation du baron et de Ferraris?
Il était inutile de presser davantage Madame Roland.
Elle ne pouvait donner aucun autre renseignement de la moindre importance. On n'avait donc plus qu'à la laisser se retirer. C'était une tentative de plus, faite inutilement pour retrouver le courrier disparu.
Il y avait un dîner de famille le soir de ce jour-là dans la maison, mais un seul invité, un neveu du nouveau Lord Mountberry, fils aîné de sa sœur Lady Barville.
Lady Mountberry ne put résister au désir de raconter l'histoire du premier et dernier assaut tenté sur la vertu de Madame Roland, en imitant d'une façon fort comique et fort exacte la voix profonde et criarde tout à la fois de Madame Roland. Son mari lui demanda pourquoi cette créature phénoménale était venue à la maison. Elle le lui dit et annonça, bien entendu, la prochaine visite de Miss Haldane.
Arthur Barville, qui depuis le commencement du dîner était, contre son habitude, silencieux et préoccupé, prit aussitôt part à la conversation avec des éclats d'enthousiasme.
« Miss Haldane est la plus charmante fille de toute l'Irlande. Je l'aperçus hier par-dessus le mur de son jardin en passant à cheval. À quelle heure vient-elle demain ?»«
Avant 2 heures. »«
Je viendrai dans le salon par hasard. Je meurs d'envie de lui être présentée. »
Agnès se mit à rire.
« Êtes-vous donc déjà amoureux de Miss Haldane ?»
Arthur répondit gravement.
« Il n'y a rien de drôle à cela. J'ai passé toute ma journée le long du mur de son jardin à l'attendre.
Miss Haldane me rendra le plus heureux ou le plus malheureux des hommes. »
« Comment pouvez-vous dire une folie pareille ?»
C'était une folie sans doute.
Mais qu'aurait pensé Agnès si elle avait pu se douter que cette réponse la poussait sur le chemin de Venise ?